RCF. Pour que nous soyons informés, chaque jour, des hommes et des femmes risquent leur vie en étant au plus près des conflits. Ces reporters de guerre nous rapportent des images, des témoignages souvent bouleversants sur les chaos du monde. Patricia Lémonnière, vous êtes l'une de ces reporters de guerre. Les spectateurs de TF1 vous ont vu souvent dans le journal de 13h ou de 20h, en direct de la Bosnie, d'Algérie pendant les années de plomb, du Rwanda, de l'Iran, de l'Irak ou encore de l'Afghanistan et puis tout récemment du Yémen. Plus de 30 ans de reportage de guerre, un métier, une passion. Dans votre livre Témoignages que vous publiez chez Artaud, au cœur du chaos, on découvre bien sûr votre métier, les drames que vous avez connus et vus, mais l'on découvre aussi la mère que vous êtes. Comment vous avez vécu votre métier si particulier et la présence auprès de votre fille qui a plus de 30 ans aujourd'hui. Alors, comment est né le projet de ce livre où vous posez en préambule cette question très forte? Peut-on être mère, donner la vie et partir aussitôt rejoindre les terres où les hommes s'affrontent, où sévissent la guerre et la mort?
Alors, un jour, c'était un jour d'été, je m'en souviens très bien, les portes-fenêtres étaient ouvertes, le soleil rentrait à flot dans la maison et ma fille est arrivée. Et il y avait beaucoup de gens qui me poussaient pour faire un deuxième livre sur tout mon parcours en me disant « t'as un parcours incroyable ». Et moi, je me disais « non, c'est pas possible. Les aventures de Tintin ou de Tintine ou de Martine en Afrique ou Venezuela, oh, on n'en a rien. J'ai pas envie ». Et puis, j'en parle à ma fille qui s'assoit face à moi et on se met, je lui dis « j'ai pas envie », etc. Et d'un seul coup, on se met à parler pour la première fois de mon métier. On n'avait jamais parlé de mon métier, alors que je venais de quitter TF1. Donc, c'est tout frais, tout récent. Imaginez-vous, ma fille donc avait 25, 26, 27 ans. Enfin, je ne sais même plus parce que j'ai un gros problème avec les âges.
Là, donc, elle va avoir 30 ans.
Ne me demandez pas les âges de tout le monde. Je ne connais rien aux âges, sauf peut-être celui de ma fille. Et encore, il faut que je recalcule avec sa naissance. Ouais. Je ferme la parenthèse. Et donc, elle s'assoit en face de moi et on se met à parler pour la première fois de mon métier. Et au bout d'un moment, je lui dis « Est-ce que tu m'en veux ?» Et il faut lire le livre pour savoir la réponse, qui est un peu l'objet de ce livre. Et on parle longtemps. Et après avoir parlé aussi longtemps, je lui dis « Écoute, tu m'as parlé de choses dont je ne me souvenais même pas. Écris-moi ça. » Alors, elle est en plein examen, etc. Donc, elle m'a fait 2 pages. Et c'est à partir de ces 2 pages que j'ai eu l'idée de construire ce livre.
Alors, vous dites, vous ne lui avez jamais parlé de votre métier. Pourtant, vous parliez beaucoup avec elle. Tous les jours même, vous l'appeliez au téléphone depuis qu'elle était toute petite pour lui parler de ce que vous viviez. Mais avec pas mal de filtres.
C'est différent. Là, je lui ai parlé dans cet entretien qu'on a eu, donc, dans cette journée ensoleillée. Je lui ai parlé de moi, sa maman, comment elle avait vécu mes départs. Jamais je lui avais parlé de ça. Alors que quand j'étais sur le terrain, effectivement, je l'appelais tous les soirs à la même heure et je lui racontais ce que je voyais. Mais pourquoi je faisais ça?
En choisissant, bien sûr, ce que vous pouviez lui dire selon son âge. Parce que vous avez commencé à l'appeler, elle était toute petite.
Ah, elle ne pouvait même pas vous parler. Je ne pouvais même pas lui parler puisque la première fois où je l'ai appelée, je suis partie une première mission, c'était tellement dur qu'après je suis allée voir le pédiatre. Et il m'a dit, mais appelez-la tous les soirs, mes hôtesses de l'air font pareil, certaines de mes patientes, appelez-la tous les soirs, mais à la même heure. Un enfant a besoin, même tout petit, de repères.
Elle avait 4 mois, Patricia Lémonnière, quand vous êtes partie la première fois, et c'était pour des missions de 4-5 semaines.
Hein. Ouais, j'ai été prolongée pour une mission, et je dois avouer, la 5e semaine était abominable, c'était la première fois que je me séparais d'elle. J'ai un peu pleuré.
Vous étiez en pleine guerre du Kosovo à ce moment-là.
Non, de Bosnie.
Oui, Bosnie. Ah oui, pardon, c'était Bosnie. Vous étiez à Sarajevo.
Voilà, j'étais à Sarajevo. Et ils m'ont envoyé faire un sujet un peu...
Alors, on va parler de différentes missions que vous avez menées sur le terrain comme reporter de guerre, Patricia Lémonnière. Mais je voudrais savoir, ça s'enracine où ce désir de vivre un métier si particulier qui est celui d'être reporter de guerre, parce que vous avez passé quasiment toute votre vie, plus de 30 ans à TF1, à être envoyé en mission sur les zones de guerre.
Et je suis prête à repartir si quelqu'un me renvoie aujourd'hui. Ça, c'est
alors
important.
Ça s'enracine où, ça, ce désir d'être reporter de guerre?
Je dirais que ça s'enracine dans un refus de la routine. Quand j'ai fait mes études, je ne me voyais absolument pas aller tous les matins dans un bureau, même faire des choses extraordinaires. C'était pour moi impossible. Je ne pouvais pas avoir une régularité. Et donc, par hasard, en discutant sur les bancs de Sciences Po, on m'a dit « Ah ouais, le journalisme, grosso modo, ça existe. » Ah, j'ai dit « Le journalisme. » Et j'adorais voyager. Ça, c'était quelque chose qui était permanent chez moi. J'adorais voyager. On pourra revenir peut-être sur l'origine de ce.
Oui, mais vous auriez pu travailler pour le National Geographic, Géo, pour voyager.
Alors,
et la guerre, c'est
alors,
particulier.
Alors, j'en viens à ça. Donc, je suis devenue journaliste. Et après, quand je suis rentrée à TF1 par la petite porte, mais très vite après au service étranger, ma première mission, ça a été la guerre au Mozambique, une guerre totalement oubliée qui a fait 1 million de morts dont tout le monde se moquait. Et moi, j'ai découvert ça en me disant « Mais attends, personne ne sait ». Et apparemment, j'ai bien raconté la guerre. Je l'ai raconté peut-être à ma façon, une façon plus humaine. J'ai bien raconté la guerre. Ils se sont dit « Mais c'est bien, elle raconte bien la guerre ». Donc, ils m'ont spécialisé en quelque sorte sur la guerre.
Mais
c'est
vous,
pas
mais,
moi
mais,
qui voulais.
Comment vous vous êtes ressentie, vous, jeune femme, qui arrive dans ce pays, qui est face à tout ce que l'homme est capable de faire d'horrible. Et ça, vous allez le voir encore au Rwanda, en Afghanistan, enfin dans beaucoup de pays. Comment vous avez réagi, jeune femme, face à cette horreur-là?
Alors,
parce que ça peut faire fuir d'autres personnes.
Par rapport aux horreurs, je crois que j'ai une capacité à me blinder. Par rapport aux émotions violentes, j'ai une capacité à me blinder. Vous savez, je me suis construite là-dessus, suite à mon enfance. Ce que je trouve aussi, et c'est ce qui me plaît le plus, ce qui me parle le plus et me touche le plus, c'est que dans ces moments absolument abominables et presque apocalyptiques, il y a des lueurs de vie que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Et je reprends cet exemple du Mozambique. On était sur une plage, une nuit. Sur une plage, on était dans un restaurant encerclé par la guérilla. Donc, on mangeait plus que des bols de riz depuis quelques jours. Mon caméraman commence à maigrir comme un fou. Et on voit une petite lueur sur la plage. Et on se dit, on va voir cette petite lueur sur la plage. Alors qu'en théorie, on n'aurait pas dû sortir, mais c'était pas très loin. Donc, on s'approche. On voit un petit brasero. 4, 5, 6 enfants autour de ce brasero. Et ils étaient en train de manger des crabes. Et ces gosses qui étaient squelettiques, qui crevaient la faim, nous voient arriver et nous tendent une brochette, alors qu'ils crevaient de faim. Alors ça, les bras vous en tombent. Bon, quelqu'un qui était avec nous, qui connaissait un peu, qui était de MSF ou de MDM, a dit « N'en mangez pas parce qu'ils sont empoisonnés. Enfin, ils ne sont pas comestibles, ces petits crabes-là. » Et ces gosses nous offraient généreusement à manger, pensant que nous aussi, nous avions faim.
Si je vous entends bien...
C'est
dans le
ça.
Pire,
ouais.
On peut encore trouver le meilleur qu'il y a dans l'homme.
Exactement. Et je trouve que c'est pour ça que le reportage, moi ce que je cherche toujours dans mes reportages, c'est ça, cette lueur. Et dans le reportage, à l'inverse des plateaux télévision que je fais beaucoup aujourd'hui, on ne véhicule pas que la peur, on véhicule l'humain. Et on véhicule l'humain, sauf si on fait que les boum-boum et les trucs comme ça. Mais moi, c'est pas ça que j'aime faire. Et si on véhicule de l'humain et on montre que l'homme a des capacités incroyables à se ressourcer, à aider et être ce que j'appelle des héros anonymes.
Visage, Thierry Lyonnais.
Patricia Lémonière. Je suis presque embêté de le faire, mais je dois le faire. Vous avez été l'une des rares femmes reporters de guerre dans ces années. Vous avez commencé dans les années 80,
voilà,
90. Vous étiez l'une des rares femmes.
Alors,
il y a peu de femmes reporters de guerre.
Alors, il y en avait sur France 2. Et donc, quand je suis arrivée à TF1, ils se sont dit, au bout d'un moment, c'est pas possible, France 2 a des reporteurs femmes, on va s'en prendre nous aussi.
Donc, c'est bon pour l'image, quoi, c'est ça?
C'est bon pour l'image, il nous faut aussi des femmes. Et donc, j'ai commencé, effectivement, j'ai profité, on était deux à rentrer au service international. Il y a un garçon qui a dit, en rigolant, je ne sais pas si c'était vrai ou tout, on aura tout vu des femmes au service étranger. Parce que c'était le service des princes, des rois à l'époque. Et donc, maintenant, ce n'est plus ça du tout. Il y a des jeunes femmes partout formidables et qui font ce métier.
Mais vous avez dû jouer des coudes pour vous faire accepter dans ce milieu plutôt masculin. Et je parle y compris sur le terrain, quand vous étiez avec des confrères.
Non, paradoxalement, je n'ai pas eu à jouer des coudes. J'ai plus eu à jouer des coudes quand je suis devenue maman. Parce que alors là, c'était même pas envisageable. Il n'y avait pas de maman, grand reporter de guerre à l'époque.
Et donc, il y avait des papas.
Il y avait des papas. Mais les mamans, on avait comme peur que la maman qui est tuée, c'est beaucoup plus grave qu'un papa qui est tué. Et ça me choquait beaucoup. Parce que un papa, ça manque autant qu'une maman. Donc pourquoi cette différence? Et la pression sociale aussi sur la maman est beaucoup plus forte que la pression sociale sur le papa.
Donc quand vous avez accouché en 1993, on vous a fait comprendre que maintenant vous alliez plutôt rester au siège.
On avait pour moi d'autres options qu'on m'a proposées que j'ai refusées.
Parce que vous vouliez repartir sur le terrain.
Oui, j'ai dit je veux repartir.
Et alors ça, expliquez-nous, parce que quand on est mère, on vient d'accoucher. Généralement, on a envie d'une chose, c'est de rester auprès de son bébé, de s'en occuper longtemps. Vous, au bout de 4 mois, vous partez pour 4 ou 5 semaines à Sarajevo. Qu'est-ce qui se passait dans votre tête, dans votre cœur ?
On a envie de rester avec son bébé, mais pas que. Parce qu'une femme n'est pas qu'une mère. Une femme est un être humain avec ses envies, ses désirs de réalisation. Et mes désirs de réalisation, c'était le grand reportage. Alors que j'étais totalement amoureuse de mon enfant, immédiatement. Même avant qu'elle naisse, comme beaucoup de mamans, pas toutes, mais comme beaucoup. Et je me suis débrouillée avec cette double passion, en quelque sorte.
C'est ça, deux passions, l'une pour votre fille, l'autre pour votre métier.
Parce que je lui ai dit, toute petite, je lui ai murmuré à l'oreille, je ne sais pas si j'en parle d'ailleurs dans mon livre, je lui murmurais à l'oreille avant qu'elle ne s'endorme, chérie, je vais repartir, parce que je ne l'appelais pas chérie, je l'appelais mon bébé à l'époque, si je ne repars pas, je t'en voudrai un jour, et je ne veux pas que tu le ressentes.
Vous auriez été frustré de rester à la maison.
Et je l'en aurais forcément voulu.
Mais Patricia Lémonière, bien des années plus tard, quand votre fille vous dit « Est-ce que tous les parents font passer leurs désirs avant ceux de leurs enfants ?» Comment vous avez reçu cette phrase ?
Ah, ça, c'était un peu un choc parce que ça remonte à l'idée... Quand je suis partie au Rwanda, ma deuxième mission au Rwanda, elle était très très forte, très violente. Je suis rentrée en France avec la sensation que je transpirais la mort. Et donc là, je n'ai pas voulu communiquer. J'ai dit « je ne peux pas gérer ». Je peux me gérer, mais je peux pas gérer ma relation avec mon enfant, elle va sentir.
Ça avait été tellement violent au Rwanda.
Oui, ça avait été tellement violent... C'était les témoignages, c'était les prisonniers, c'était les procès, c'était l'horreur qui transpirait de partout.
Là, on est en 97, pas en 94, au moment des massacres.
Alors que j'y suis allée, mais ça dégoulinait de partout. Et donc, je suis rentrée dégoulinante. Et je me suis dit, c'est pas possible, je vais la contaminer en quelque sorte, ou ça va pas se passer. Donc, je l'ai emmenée chez un pédopsychiatre, d'accord ? Pour me disant, il va gérer... Et moi, je vais gérer mon problème et après, on va pouvoir retourner.
Vous aussi, vous alliez chez un psychiatre ?
Non, mais je gérais, je savais pouvoir un peu gérer, mais il me fallait un peu de temps. Un choc comme ça, il faut un peu de temps. Et d'ailleurs, elle ne faisait pas des longues séances. Chaque fois que je rentrais un peu dégoulinante, elle y retournait et c'était pour 2-3 séances, vous voyez ? Et donc, à l'occasion de missions un peu difficiles, alors qu'elle avait 9 ans, je l'avais emmenée chez son pédopsychiatre. Et on rentre en voiture, et c'est dans la voiture où elle a prononcé cette propre...
Incroyable cette phrase. Est-ce que tous les parents font passer leurs désirs avant ceux de leurs enfants ?
Parce que son pédopsychiatre lui avait dit, les parents font passer leurs désirs avant celui des enfants. Et donc, quand vous êtes dans votre voiture et qu'on vous dit ça, je me souviens, je pourrais aujourd'hui peindre la scène si j'étais bonne en peinture. J'étais boulevard Raspail, j'allais passer pont de la Concorde, et je peux vous dire, quand je me suis retrouvée place de la Concorde et après, j'ai pensé très très vite et j'ai trouvé la phrase. Et j'ai trouvé, je lui ai dit, chérie, si t'arrivait quelque chose et que j'étais au bout du monde, mais qu'il y ait quelque chose de très grave, eh bien j'abandonnerai, je rentrerai pour toi.
Et pourquoi, Patricia Lémonière, ça a été très important ce rituel que vous avez mis en place et que vous avez respecté tout le temps, jusqu'à son adolescence, jusqu'à ce qu'elle en ait un peu assez, elle, que vous l'appeliez, tous les jours à la même heure. Pourquoi c'était si important, cela ?
Mais même à l'adolescence, j'ai continué à l'appeler quand je le pouvais, ou j'utilisais les SMS. Mais j'ai toujours fait ça, et savez-vous qu'aujourd'hui encore, On s'appelle tous les soirs à la même heure, si ce n'est que c'est elle qui m'appelle, parce que comme elle travaille très prenant, c'est elle qui m'appelle, c'est plus moi. Mais c'est tous les soirs le rituel.
Comment vous faisiez? Parce que je me disais, mais quand elle était dans la forêt en RDC,
le miracle du téléphone satellite, il y a peut-être 4-5 fois où j'ai pas pu parce que j'étais en avion, ou je savais que j'allais passer dans un endroit qui pouvait être assez dangereux, et comme en Irak. Et donc là, je la prévenais la veille en lui disant, la chérie, il y aura pas de satellite, ça va pas marcher. Donc je vais pas t'appeler, t'inquiète pas, tout va bien, je t'appellerai le lendemain. Donc à part ces 4-5 fois, mais je crois que ça crée sa stabilité. Ça crée d'abord ce lien qu'on a maintenu coûte que coûte, par la parole, par l'échange, et elle avait ce repère, maman, tous les soirs à la même heure.
Patricia Lémonière, j'aimerais qu'on parle de votre métier maintenant, votre métier de reporter de guerre que vous avez fait pendant plus de 30 ans pour TF1. On se souvient, on vous voyait souvent en direct, hein, comment vous appelez ça, le plateau, vous êtes là,
direct, ouais.
Vous venez de passer votre reportage et vous êtes en direct pour parler pendant une minute, pour raconter ce que vous avez vécu. Donc j'aimerais qu'on vous suive sur le terrain. Vous partez toujours avec une équipe, hein. Vous n'êtes jamais seul.
Oui.
Alors, qui a-t-il dans cette équipe?
Alors,
elle est constituée de qui?
Il y a très longtemps... mes premiers reportages, nous étions 4.
Donc il y avait un caméraman.
Un caméraman, un monteur, un preneur de son.
Et vous?
Et moi.
Comme journaliste.
Le preneur de son est très vite devenu monteur et preneur de son. Donc nous sommes passés à 3. Et puis après, nous sommes passés à 2. Les dernières missions que j'ai faites.
On diminue toujours
voilà,
de plus
on diminue,
en plus.
Bah, oui, question de coût. Donc le caméraman reste caméraman, devient monteur et le journaliste prend le micro. Et devient preneur de son. Non, il n'est pas du tout preneur de son. Il tend le micro, plutôt, j'ai envie de dire. Parce que la qualité sonore, excusez-moi.
Elle voulait dire quoi? Qu'elle a bien baissé, la qualité de son.
Ça n'existe même plus. Mais alors que un silence au milieu de la guerre, ponctué par un chant du coq, un cri d'oiseau ou un vent un peu intense, ça transforme le reportage. Mais on n'en est plus là, on n'a plus les moyens.
On perd des économies,
on
des
a
économies.
Plus les
parce que ça coûte très cher d'envoyer des grands reporters
alors
en situation de guerre.
Alors je vais vous donner un exemple. Même l'Irak, ça coûte très cher pendant les, au moment des enlèvements. Au moment des enlèvements, pour sortir une équipe de l'aéroport de Bagdad et pour l'emmener dans la capitale, le coût de voir une voiture blindée plus une voiture suiveuse... Soit la voiture suiveuse était aussi blindée avec plein d'hommes en armes, soit elle était beaucoup moins, avec que 2, oscillait entre 2 500 € et 5 000 €, voire 6 000 €.
Juste pour ce transfert de l'aéroport au centre.
Le transfert, ce qu'on appelait la route de la mort, ce transfert-là. Bon, après, il fallait payer la sécurité si vous le vouliez. Moi, je ne voulais pas de sécurité. Je préférais avoir... des habitants qui changeaient de voiture tout le temps et qui peut-être avaient peut-être un pistolet dans leur voiture, mais ça je ne savais pas, et je préférais m'appuyer sur l'extrême discrétion. Mais la plupart des équipes, anglaises et américaines, c'était du 10 000 euros au jour.
Alors il y a aussi un personnage très important, c'est celui qu'on appelle le fixeur.
Oui.
Ça j'aimerais que vous nous parliez de ces hommes le plus souvent qui ont des rôles considérables dans vos grands reportages de guerre.
Oui, alors celui qui m'a le plus touché, c'est évidemment celui qui était avec moi en Irak et qui est mort en sautant sur une mine, parce que c'était un garçon très courageux et qui nous a beaucoup aidés. Mais les fixeurs ont un rôle éminemment important parce que quand on arrive sur une situation que l'on ne connaît pas, c'est eux qui vous débrouillent les contacts. Et donc, c'est hyper important d'en avoir et c'est, il faut les trouver. On sait qu'on part, mettons, dans 3 heures. Eh bien, les assistantes du service se mettent à téléphoner partout parce que nous, on n'a pas le temps. Il faut aller faire nos bagages, etc. pour essayer de nous trouver quelqu'un.
Mmh. Bon. C'est ça, parce que parfois, vous devez partir en urgence dans un pays.
La guerre éclate, personne n'a de contact. Mmh. Ou le conflit éclate, personne n'a de contact. Donc là, il faut aller très, très, très vite. Et parfois, on trouve personne. Mmh. Donc, quand on arrive à l'aéroport, on trouve un taxi. Et puis, à l'hôtel, après, on se renseigne et on essaye de trouver quelqu'un.
Et ça, c'est fixeur, quoi. Ce sont des journalistes du pays.
Ça peut être des journalistes du pays. Ça peut être simplement des gens qui parlent les deux langues et qui ont quelques contacts. Ça peut être des gens très, très, très mauvais qui vous plantent totalement votre mission aussi. Donc, il n'y a pas que le fixeur qui est formidable. Il y a, comme chez tous les êtres humains, il y a celui qui est formidable et puis il se décline.
Mais ça veut dire que ces fixeurs, ils prennent le risque aussi, comme vous, de mourir sur le terrain.
Bien sûr. Bien sûr, ils prennent le risque et ils n'ont pas, par rapport à leur famille, l'assurance.
Voire même à la fin de la guerre ou au départ des soldats français, par exemple, d'être dans une situation dramatique. Je pense aux Afghans, à tous les fixeurs afghans qui ont aidé les journalistes français ou américains. Quand les troupes françaises et américaines sont parties, ces fixeurs ont été dans une situation très dramatique.
Ils ont été dans une situation très difficile. Certains ont été rapatriés peu. Sur la totalité, je pense, qui a travaillé, aussi bien pour les ONG que pour l'armée française, que pour les journalistes. Les ONG et les Nations Unies ont fait une grande consommation, comme on peut dire aujourd'hui, de fixeurs et de traducteurs. Et ces gens-là, pour la plupart, sont restés sur place. Alors, il faut savoir que souvent, à la fin, les 2 dernières années, ils venaient d'une autre ville totalement différente pour travailler avec des gens dans une autre ville.
Ne pas être repéré comme ça.
Ne pas être repéré. Mais en fait, ils l'étaient. Et parfois, les traducteurs pour les ONG et pour les armées faisaient double jeu. Parce qu'ils c'était obligé. Pour leur survie, ils devaient aussi donner des infos aux talibans. Ils ne pouvaient pas faire autrement.
Patricia Lémonière, votre rapport avec l'armée, parce que souvent on vous a vu en mission sur le terrain, je pense en Afghanistan, mais même en Irak, vous étiez avec l'armée française par exemple qui avançait.
Alors, parfois j'étais avec l'armée française, parfois j'étais avec l'armée américaine en Irak. Et parfois j'étais avec l'armée irakienne.
Alors, comment
faire? Et parfois avec l'armée syrienne.
Comment faire à ce moment-là quand on est grand reporter et que on pénètre en zone de guerre avec l'armée? Allez, prenez un exemple. Je sais pas. Prenons l'Afghanistan, par exemple. Quand vous étiez avec l'armée française en Afghanistan, vous organisez ça?
Il y a plusieurs façons d'être armé avec l'armée française en Afghanistan. J'ai fait une mission, celle où j'étais blessée, où ça a été ce qu'on appelle un embed à l'américaine.
Qu'est-ce que c'est ça?
Un embed, ça veut dire intégré à l'armée que vous suivez.
Voilà, vous êtes intégré avec les militaires
et vous avancez
en zone de combat.
En général, avec l'armée française, on est accompagné de quelqu'un qui est déployé et qui est un communicant, en quelque sorte, qui porte une arme, qui est un soldat, mais qui est dans le département communication de l'armée française. C'est un bed, donc, cette mission que j'ai faite alors que j'étais blessée. Là, je n'ai pas eu de détaché de Paris ou de cette cellule, enfin, ce département précis pour nous suivre et nous escorter. Là, on m'a donné celui qui était le communicant d'un des régiments local et qui faisait communicant, soldat, qui faisait tout, et donc qui était vraiment presque un soldat comme un autre. Et quand on est parti en mission, c'était pas du tout lui qui s'occupait de moi. On me rattachait soit à un commando, soit à quelque d'autre. Donc c'était totalement à l'américaine. C'est la plus belle mission que j'ai jamais faite.
Mais là, vous étiez au cœur du combat, là, vraiment.
Je suis restée 8 jours avec eux, 8-10 jours. C'est la plus belle mission que j'ai faite parce que j'ai vraiment vécu sans filtre. Il y avait pas, quand je faisais des interviews, quelqu'un qui était à côté de moi et qui regardait ce que le soldat allait dire, vous voyez. On parle pas de la même façon, Donc il y avait une espèce de confiance qui s'était installée. Et par exemple, à un moment donné, il y a eu des blessés là où on était. C'était pas la mission où j'étais blessée, il y a eu des blessés. Il y a un hélicoptère de l'armée française qui est atterri, et en théorie on m'a dit oh là là, faut peut-être pas filmer. Et j'ai dit écoutez, on va filmer puis on verra après au retour. Ils m'ont laissé faire. Ça aurait été jamais possible autrement.
Parce que vous êtes contrôlé quand même quand vous partez.
Quand on est,
avec
on est quand
l'armée,
même, on est,
ah bah,
on est contrôlé, puis on nous fait sortir au bon moment. Ce qui fait que très souvent, d'ailleurs, les embeds avec l'armée française, on voit rien et tout se passe bien. Hein. On fait un petit tour dans la montagne et puis on redescend, quoi. Alors que les embeds avec les Américains, c'est une autre paire d'affaires. Hein. Là, vous êtes un soldat comme un autre. On vous met avec quelqu'un, on vous plaque au sol. C'est complètement différent. Et là, en plus, on a des briefs, ce qu'on appelle des points de situation. Situation avec les gens du renseignement, on vous demande de signer un papier comme quoi vous ne ferez pas état des renseignements à la sortie, mais on a un point de situation qui est très sérieux, alors que dans l'armée française, quand vous dînez le soir avec tous les soldats, les militaires et les responsables militaires de la base où vous êtes, on met l'homme du renseignement le plus loin possible pour surtout que vous n'ayez aucun contact avec lui.
Visage RCF.
Patricia Lémonière, vous nous avez parlé, glissé, ça comme ça, quand j'ai été blessée en Afghanistan. Mmh. J'aimerais qu'on parle de ce moment-là. On est en 2011,
oui.
Vous partez en Afghanistan, là vous êtes complètement immergé avec l'armée française sur le terrain, et là vous subissez une attaque. Vous vous souvenez précisément de
tout
ce qui s'est passé ?
Alors, ce qui est drôle, c'est que quand on est parti vers minuit, un peu avant minuit, j'ai eu un mauvais pressentiment, j'ai dit... Parce qu'en général, quand je sentais des missions très très difficiles, j'écrivais un message à ma fille, à son père et à mes parents, au cas où je ne revienne pas. Une petite lettre que je laissais à Paris.
Là, à l'ouvrir, si vous ne revenez pas.
Dans mon bureau, sans rien dire à personne. Mais comme tout le monde ouvre votre bureau, si vous ne revenez pas, il l'aurait trouvé. Et là, j'ai dit, j'ai rien écrit et je le sentais pas. Donc, j'ai pris mon portable, tac, 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 dans les notes, là. J'ai écrit quelque chose. Et comme le caméraman ne voulait pas partir avec nous parce qu'il ça lui plaisait pas du tout cette mission, il sortait pas de la base. Et je le comprends, on a le droit d'avoir peur. Hein. Ça, c'est vraiment légitime. Ça n'a rien à voir avec le talent. C'est autre chose. Et donc, lui restait. Je lui ai dit, écoute, si jamais il y a quelque chose sur le ton de la rigolade, j'ai laissé un message pour ma fille. Voilà mon code, il faudra lui donner. Et nous voilà partis. Donc je suis partie avec cette idée que... Et alors, c'était...
Et là, sans caméraman, donc quoi, pour voir, ou c'est vous qui avez pris la caméra?
Voilà, j'avais une caméra et le monteur, qui était un monteur qui est devenu plus tard caméraman, un garçon extraordinaire.
Donc là, vous êtes partis que tous les deux.
Et on est partis que tous les deux avec nos troupes. Et quand on arrive dans la nuit, il était minuit, etc. Et là, je me dis, mais c'est pas possible cette mission. Ouf, 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 tout le chien aux alentours qui aboie. Alors, pour être discret, autant la presse l'affaire de jour, à la limite, j'ai envie de dire, bon. Parce que tout le monde est au courant qu'il y a quelque chose qui se passe. Mmh. Tous les chiens aboient. Donc voilà, on passe, enfin bref. Et on arrive dans le village qui était ciblé. C'était attraper des gens qui fabriquaient des engins explosifs improvisés. On arrive dans ce village et moi, j'étais avec le chef de l'unité et donc avec les commandos. Donc on était le plus à l'avant. Et c'était... Il est l'heure de la prière, le jour se lève, l'imam, enfin la mosquée, c'est donc l'appel à la prière.
Le muezzin appelle à la prière.
Muezzin, et immédiatement après, les premières rafales.
Là, vous êtes attaqué.
Et on est attaqué, et ça pète de partout, etc. Et là, avec Louis, mon alter ego en quelque sorte, on se regarde, on se dit, en quelque sorte, dans nos yeux, c'était chouette. Enfin, ce qu'ils vivent, on va le vivre. Et donc, on se met à filmer tous les deux.
Non mais attendez, votre réaction, c'est pas la peur, c'est non. Ouais, c'est chouette, ça y est, on y est, on est au cœur du combat.
On va voir ce qui se passe, ouais, on va voir ce qui se passe.
Non mais attendez, ça vient d'où ça, ce côté grisant?
Non, c'est pas grisant, c'est témoigner, voir, et tout de suite j'ai regardé les militaires, ce qu'ils faisaient, comment ils faisaient, comment ces soldats qui tombaient régulièrement, comment là, alors que leur vie était peut-être en danger, j'ai pensé aux soldats.
Parce que là,
je pense pas à moi.
Là, il y a eu... Un mort et
32 blessés.
32
c'était une
blessés,
très grosse attaque.
C'était une grosse attaque. Mmh. Mais attendez, vous, là, au cœur de l'action...
Et deux blessés très très graves, ce que j'appelle en pièces détachées. Mmh. Moi.
Vous n'avez pas peur, là?
Non, je pense aux soldats. Je pense aux hommes que je suis venu suivre.
Non, mais vous n'êtes pas câblé comme tout le monde.
Non, je suis câblé comme tous les journalistes. On est tous pareils, les grands.
Les journalistes sur le terrain.
Moi, ceux qui vont sur le terrain sont tous pareils.
Mais pourquoi vous croyez invulnérable?
Alors, on se croit invulnérable jusqu'à ce qu'on soit blessé.
C'est ce qui s'est passé. Ouais. Jusque-là, vous pensiez que vous aviez votre bonne étoile et
que
vous alliez revenir tout le temps.
D'ailleurs, j'avais ma petite étoile autour du cou et je croyais que de toute façon, je disais tout le temps au père de ma fille, à ma fille, enfin le père de ma fille qui n'habitait pas en France, mais je disais, t'inquiète pas, je pars, je la laisse seule.
Je reviendrai, quoi.
Mais je reviens.
C'est une croyance, en fait.
Oui, c'est une foi.
Oui. Et là, bing, vous êtes blessé, là.
Alors, au bout de 5 heures de combat, alors qu'on est à court de munitions, je suis blessé.
C'est une explosion.
Oui, c'est une roquette qui a tapé sur le haut de la fenêtre et donc les éclats sont passés. On s'était réfugié dans une maison parce que ça tapait trop. Et d'ailleurs, il y a un truc extraordinaire, c'est qu'à l'extérieur, j'ai filmé une balle qui tape sur la maison alors que j'étais en train d'interviewer 2 militaires et la balle est passée entre les deux. Et l'un des militaires dit, on enregistre, oh, c'est pas passé loin. Bah oui, c'était passé à 2 centimètres de son oreille. Ouais. Mais il y avait tellement de bruit. Voilà. Bref, et quand on est blessé, ben voilà, j'ai vu la lumière blanche, que tout le monde dit, oulala, c'est très mauvais quand on la voit.
Vous êtes quoi, tombé dans les pommes?
Non, pas tombé dans les pommes, le souffle était trop fort, je suis tombé par terre et puis j'ai été blessé. Donc,
des éclats, blessé au visage, blessé au bras.
Mais autour de moi, il y avait 3 autres personnes blessées aux jambes en particulier, donc très, très moches les jambes, et qui hurlaient quand même. Qui hurlaient, qui demandaient tous. Et ça m'a beaucoup frappé. La solidarité des hommes à ce moment-là. Est-ce que le chef est blessé? Est-ce que le chef est blessé? Ils voulaient tous savoir comment était leur chef. Parce que si leur chef avait été blessé, c'était plus la même histoire. Si leur chef tenait, il devait tenir. Et ça, même dans mon souvenir au sol, j'entends encore ces voix aujourd'hui.
Alors, vous avez été rapatrié à la base.
Ouais.
Et le lendemain, vous avez voulu faire un plateau. Vous nous racontez cette histoire dans votre livre, ouais. Là, au cœur du chaos. Mais là, c'est vraiment le titre, là, ouais. Au cœur du chaos. Vous étiez au cœur du chaos. Qu'est-ce qui vous a fait vous relever de votre lit pour faire un plateau le lendemain? Et on peut trouver sur Internet, hein. Je suis allé rechercher. On vous voit avec un bandage au niveau du menton, avec le bras en écharpe. Et là, vous avez voulu témoigner de ce qui s'était passé.
Alors, c'est 2 choses. Les combats ont duré 10 heures, hein, ce qui est beaucoup. Quand on était rapatrié sur la base, comme nous, on était dans les derniers à rentrer, parce qu'on était les plus éloignés, puis on était les blessés, il y avait des blessés plus graves, donc nous, on a été héliportés après sur Kaboul, dans les derniers. Donc, j'ai eu un peu de temps sur la base, à l'infirmerie, où on m'a fait les premiers soins. Et là, on m'a apporté un téléphone pour que j'appelle ma fille. Le seul problème, c'est que l'armée française avait prévenu ma patronne qui avait prévenu ma fille. Donc, elle était dans un état second. Quand je l'ai au téléphone, elle parlait comme ça, vous voyez, parce que j'avais le menton qui était tombé, quoi, en grosso modo. Donc, j'étais un peu, voilà, puis j'avais ce qu'on appelle blasté. C'est-à-dire, j'avais reçu le blast, c'est-à-dire le souffle de l'explosion, ce qui est très mauvais, en fait. Je l'ai appris beaucoup plus tard.
Il n'est plus respiré. Hein,
oui, voilà, c'est très, très mauvais. Puis, il y a des conséquences que j'ai appris beaucoup plus tard. Là, mon seul objet, c'était de la rassurer. Tout va bien. Et donc, tout va bien.
Que vous disiez tout le temps au téléphone, quand vous étiez en mission. Tout va bien, tout va toujours bien.
Et alors, elle voyait bien à ma voix que tout n'allait pas bien. Et donc, là, j'ai dit, te promets demain à l'antenne. Bon, au revoir. Voilà, enfin c'était même encore plus difficile. Bref, et donc il fallait que je sois à l'antenne. Il y avait cette motivation. Et puis la deuxième motivation, c'est que je voulais surtout pas qu'à Paris, ils fassent un sujet avec nos images. Ah ça, j'aurais été furieuse.
Sans vous, c'est ça.
Que ce soit pas moi qui signe et Louis qui était avec moi, que nous deux, nous ne signions pas ce reportage. Même aussi petit allait-il, c'était pas grave, il fallait le faire. Et deuxièmement, que je ne témoigne pas de ce que les soldats vivaient. C'était les 3 choses.
Vous deviez témoigner.
Je devais
pour
témoigner
les soldats.
Parce que j'avais l'impression que les Français ignoraient toute la guerre qui se déroulait en Afghanistan. Et donc voilà, c'est ce qui m'a motivée. Et donc j'ai signé une décharge. J'ai réussi à, grâce à la complicité des médecins, à retrouver une base où retrouver mes hommes. Et voilà.
Et vous avez témoigné à l'antenne. Voilà. On peut le voir.
On va tenter maintenant de joindre Patricia Alémonière qui est en direct de la base de Tora en Afghanistan. Patricia, bonsoir. J'espère que vous m'entendez et j'espère surtout que vous allez mieux après les blessures que vous avez reçues hier lors de ces combats et que nous découvrons sur ces images. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Patricia, ces heures qui ont été pénibles pour vous et également pour les soldats français ?
Oui, alors tout d'abord, je suis désolée d'apparaître devant vous comme ça, mais bon, nous n'y pouvons rien, en quelque sorte. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce que les hommes ont vécu aussi, et je le dis aussi un peu pour leur famille, c'est qu'il se passe ici des centaines de missions. Ils font des centaines de missions dans des conditions difficiles, mais rares sont celles qui se terminent avec un tel bilan. Deuxièmement, ils ont parfois le sentiment de ne pas être compris, d'avoir l'impression qu'en France, on dit « bon, mais ils font leur métier » ou « ma foi, mais pourquoi vont-ils se faire tuer dans ce pays ?» Et tous ceux que nous avons rencontrés ont vraiment l'impression de faire une mission qui est utile. Et ils ont l'impression qu'ils sont là un peu pour aider leur pays et faire en sorte que la France, effectivement, ne subisse pas des attentats. Parce que vous le savez, en Afghanistan, il y a eu Al-Qaïda qui s'est implanté grâce aux talibans. Al-Qaïda, maintenant, est démantelé, mais les talibans pourraient revenir au pouvoir. Et donc, cette lutte contre les insurgés, les talibans, eh bien, à leur façon, ils ont l'impression de participer à cette lutte et donc d'aider la France et les Français que nous sommes tous.
Patricia Lémonière, j'aimerais qu'on parle d'un autre aspect de votre métier de grand reporter. C'est comment faire pour ne pas être manipulé quand on est reporter. On va prendre l'Algérie. Ouais. Ça a été à un moment votre deuxième maison, hein, comme vous disiez, entre 95 et 99, vous alliez très régulièrement en Algérie. Si les auditeurs, cette date leur dit quelque chose, c'était ce qu'on a appelé les années de plomb, c'était terrible. Bien sûr, assassinats,
les grands massacres.
Tous les massacres. On parle beaucoup des massacres des moines de Tibérine ou des Pères Blancs, mais il y a eu des milliers et des milliers d'Algériens qui ont été massacrés à cette époque. Tous les étrangers étaient menacés de mort. Vous alliez régulièrement là-bas. Comment faire, dans ce contexte-là, si difficile, pour ne pas être manipulé?
C'est plutôt pour échapper aux pressions. Je dirais plutôt ça, parce que les pressions sont très très fortes quand on parle de 700 personnes mortes dans un massacre, ou 400, ou 300, etc. Donc la France se déchirait sur l'Algérie. Il y avait ceux qui étaient face à ce qu'ils appelaient donc le terrorisme islamiste radical, qui étaient favorables aux généraux qui voulaient par tous les moyens éradiquer, comme c'est le mot à la mode en ce moment, éradiquer le GIA, hein, le groupe islamique armé, par tous les moyens. Et il y avait ceux qui disaient, en fait, c'est l'armée qui fait des massacres parce que ils veulent que la population bascule de leur côté, donc ils veulent montrer que les islamistes sont très très vilains, en quelque sorte, et donc, en fait, c'est l'armée qui est responsable et qui fait des massacres. Ça vous rappelle peut-être une histoire.
Notamment les moines de Tibérine.
Oui, et puis ça rappelle des histoires très récentes sur tous les conflits qui se déroulent aujourd'hui. Donc, il fallait échapper à ça. Alors moi, j'avais trouvé une astuce. Je parlais pas de terrorisme. De terroriste, parce que je trouve que le mot terroriste, alors que la terreur est important, utiliser le terrorisme comme arme de guerre, c'est une arme de guerre le terrorisme. Mais dire terroriste, on dit tout le monde est terroriste. Le FLN était terroriste, maintenant, après ils ont dirigé l'Algérie et on les a reçus à Paris, quand même étonnant.
Après ils sont devenus des résistants.
Après ils sont devenus des résistants et après ils sont devenus des
héros,
des héros et des premiers ministres. Voilà, donc reçu en pompe par la France. Donc si vous voulez, il faut faire très attention, et surtout que le mot terrorisme, pour moi, permet d'échapper complètement au projet politique qu'il y a derrière l'usage de la terreur comme arme de guerre.
Non mais là, pour vous, journaliste, Patricia Lémonière, vous êtes sur le terrain, vous partez dans les montagnes oranaises, là il y a eu un massacre, et un massacre, allez mettre 400 personnes dans un village, femmes violées, égorgées, les enfants tués, décapités, enfin l'horreur.
L'horreur.
Comment vous enquêtez pour savoir ce qui s'est vraiment passé?
Alors, d'abord, on a des réseaux en France qui nous permettent de voir qu'est-ce qui se passait sur place, quelles étaient la situation. On essaye de recouper ces informations le plus que l'on peut. On essaye de faire ce que l'on peut et surtout, on est hyper prudent dans son commentaire. C'est pour ça que je vous disais, j'utilisais pas le mot terroriste. Que j'utilisais le mot groupe islamique armé, usage de la terreur comme arme de guerre, et je parlais de groupes armés. Parce que je ne savais pas, j'avais pas eu accès au GIA, j'ai pas pu les interviewer, j'avais pas eu accès aux milices organisées localement pour, en beaucoup moins non, mais pour essayer de défendre les villageois, ou parfois éliminer ceux qu'on n'aime pas, donc je n'avais pas assez d'éléments. Et donc, n'ayant pas assez d'éléments, je prenais une posture groupes armés et je m'intéressais qu'aux témoignages des gens. Et parfois, les témoignages des gens, il fallait les faire dans les 5 premières minutes. Parce qu'après, il y arrivait les faux habitants. Les faux habitants qui vous disent « Oh là là, heureusement que l'armée est là et nous protège !» Bon, quand l'armée avait mis 5 heures pour venir. Vous voyez ? Donc il fallait tout de suite capter les premières paroles, et là vous aviez des paroles vraies.
Mais à un moment dans votre livre, Au cœur du chaos, vous dites « J'en ai marre du mensonge ». Vous en aviez marre de l'Algérie et de tout ce mensonge.
Ah oui,
là,
si vous voulez, tout le monde essayait de vous tirer de son côté, même les autorités françaises. Et en plus, les autorités françaises étaient divisées en 2 camps pratiquement à l'époque. Donc, on voulait vous convaincre de certaines choses, et vous, à un moment donné, vous ne savez plus. On vous dit quelque chose, est-ce que c'est vrai ? Vous doutez de tout. Et donc, vous avez l'impression que vous ne pouvez plus faire votre job parce que vous avez l'impression que ça manipule de partout.
C'est ça, on veut vous manipuler parce que vous...
On veut vous faire dire une vérité que vous ne savez pas.
Et devant des millions de téléspectateurs tous les soirs dans le journal de 20h.
Vous avez la responsabilité de ne pas dire des âneries. Donc, le plus simple, moi, c'était ma position, c'était, parfois d'ailleurs, j'ai loupé des scoops presque, ça a été de ne pas révéler de ce que l'on m'avait dit et d'en rester plus simplement au reportage humain.
Alors, il y a tout un tas de questions éthiques qui se posent dans votre métier de grand reporter, Patricia Lémonière. J'aimerais qu'on en parle de ces questions éthiques. Quelle est votre approche éthique face à la mise en danger des personnes que vous interviewez, par exemple? Vous êtes sur le terrain, vous cherchez des témoignages, vous allez interviewer ces personnes-là, mais vous savez très bien qu'elles prennent un risque énorme. Et vous allez rentrer, elles vont rester sur le terrain.
Alors, il y a 2 choses. D'abord, c'est bien leur expliquer que vous allez rentrer et qu'elles vont rester. Ça, c'est très, très important. Et donc, il y a effectivement beaucoup de gens qui ne veulent pas témoigner. C'est la majorité, la très, 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 très grande majorité.
Ils ont peur, et c'est normal d'avoir peur.
Et c'est totalement... totalement logique. Alors après, il y a toutes les questions, on les trouve dans des endroits, on essaie d'échapper à la surveillance pour les retrouver dans des endroits où ils seront pas repérés, et après on les floute, on les cache, on les met de dos, etc. On modifie leur voix, on fait dire leurs mots par quelqu'un d'autre, etc. Il y a beaucoup de techniques. Et puis, il y a ceux qui osent parler. Et ça, ils sont les plus courageux, enfin, je veux dire, moi, je ne serais sûrement pas aussi courageuse qu'eux dans ces moments-là. C'est parce qu'ils ont trop souffert. C'est l'excès de souffrance qui fait qu'ils ont envie de s'adresser pratiquement à leur bourreau ou au tueur en face à face à travers l'image.
Et vous, ils vous demandent de passer leur message, de dire ce qui se passe vraiment.
Voilà.
Mais là, c'est rare et c'est excessivement
courageux.
C'est
très, très rare, et on a la sensation de porter une lourde responsabilité aussi chaque fois en le faisant.
Vous passez... Eux, ils restent.
Ouais.
Ça, j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre ce qu'on ressent quand on est grand reporter. On est là sur le terrain, on recueille le témoignage de gens qui sont dans des situations dramatiques, qui souvent vous disent « aidez-nous, aidez-nous ». Vous filmez et vous repartez. Comment on vit ça ?
Alors d'abord, moi, je vis ça parce que chaque fois, je regrette de ne pas revenir souvent. Parce que souvent, là, l'information étant rapide, on revient une fois, 2 fois, mais on ne revient jamais au même endroit. Et je regrette de ne pas les suivre dans mes rencontres. Ça, c'est le truc le plus difficile à accepter, je pense.
Vous dites que la rencontre, c'est le cœur du reportage.
Ouais,
donc pour vous, c'est important ces moments de rencontre avec des gens qui vont témoigner.
Ces moments sont essentiels parce qu'en plus, dans ma façon de travailler, j'essaye d'aller au cœur de leur cœur, en quelque sorte. Donc, je tape fort à la porte, pas par des mots. Je tape fort à la porte en faisant des interviews beaucoup trop longues. Je fais des interviews de 15 minutes ou même plus qui agacent les caméramans, qui est pour en garder 15 secondes. Mais c'est dans ces interviews très longues que j'accroche quelque chose au fond de la personne. Elle oublie, et le regard et l'importance du regard est très, très forte. Donc, je regrette ce fait de ne pas revenir, mais je me protège beaucoup parce que je ne tisse pas de lien avec ceux que je rencontre. C'est-à-dire, je les rencontre, et après, je ne vais pas sur Facebook, je ne vais pas sur machin. J'essaie de ne pas tisser de lien, parce que si je fais rentrer de l'affect dans mon travail, je fais rentrer de l'affect au moment de la rencontre, j'ouvre au moment de la rencontre, je referme après. Si je fais rentrer de l'affect au moment de la rencontre, je perds ma position que moi j'appelle de neutralité, sur laquelle on peut beaucoup discuter, mais je perds cette position qui m'est essentielle pour faire mon travail correctement. Je l'ai perdu 1 ou 2 fois, en portant une petite fille au fond de la République démocratique du Congo.
Alors justement, je voulais qu'on en parle.
J'ai,
c'est la petite, fille
perdu,
la petite fille à la valise.
J'ai perdu mon réflexe. Et d'ailleurs, le caméraman a laissé tomber la caméra lui aussi.
Alors justement, parlons-en de cet événement. Vous êtes en ce qu'on appelle la République démocratique du Congo. C'est après la guerre au Rwanda, les Hutus qui ont massacré sont là. Ils sont massacrés à leur tour. Par les Rwandais. Et là, vous êtes dans la forêt. Et racontez-nous ce qui s'est passé.
Alors, on est le premier convoi qui a pu atteindre, le premier convoi humanitaire, qui était un vieux train qu'ils ont remis en marche, qui a pu traverser l'équateur et atteindre une poche où il y avait à peu près 80 000 personnes qui fuyaient après avoir marché plus de 1000 km dans la jungle, qui fuyaient les camps de Goma situés à la frontière rwandaise qu'ils avaient quittés suite à l'arrivée des troupes rwandaises. Et ougandaises. Et ils étaient là dans la forêt à crever de faim et à crever de tout ce qu'on veut. Et aussi, les combats se poursuivaient et donc ils mouraient aussi par balles. Et à un moment donné, le train donc arrive dans parce que sur cette ligne de chemin de fer, qui était en fait une ligne pour acheminer des minerais il y a fort longtemps, sur cette ligne de chemin de fer qui ne fonctionnait plus depuis très longtemps, qu'il a fallu ouvrir avec des machettes, il y avait des petits postes, vous voyez, des petites postes de gare. Et parfois des petits villages autour. Et donc, on s'arrête à cet endroit-là, et là où il y avait un petit village dans le lointain, et un dispensaire. Donc, on s'arrête à cet endroit, on descend, et on va dans la forêt. Et là, là, c'est même pas possible, je pourrais peindre là encore, des corps partout, allongés.
Il est en train de mourir de faim.
Certains morts.
Des morts.
Certains pas loin. Une femme avec trois enfants aux pieds qui ne pouvait plus marcher, hein, mangée par les bestioles et par les blessures infectées. Et à un moment donné, on fait l'interview de cette femme qui était déjà très bouleversante et on voit une valise. Et c'est Mathieu qui la voit. Et on y va et on voit à l'intérieur de cette valise, il faut dire que sous la forêt tropicale, il pleut en permanence, c'est très 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 humide. Et à l'intérieur de cette valise, dans cette espèce de brouillard tropical, une petite fille, 8 ans, on ne sait pas quel âge elle a. Elle a une petite robe et elle n'est pas morte. Elle me regarde. Alors là, Mathieu, il n'a pas filmé. Enfin, il a peut-être fait un plan, je ne sais même plus si elle est dans le sujet. Et moi, j'ai pris la valise. Et là, on n'était plus journaliste. On n'avait plus qu'une envie, c'était effectivement sauver cette petite fille d'une mort certaine. Donc, on l'a emmenée au dispensaire. Quand on est rentré dans le dispensaire, on a trouvé le pauvre infirmier qui était là tout seul. Tout avait été dévalisé par les combats. Il n'y avait plus à rien sur les étagères. Il nous emmène dans la salle arrière. Dans la salle arrière, plein de gens allongés, en train d'agonir, parce qu'il y avait les villageois qui les avaient commencé à les amener. On dépose cette petite fille. Et on se dit, on repart parce que le train, il faut repartir. Et on ne sait pas ce qu'elle est devenue.
Et là, Patricia Lémonnière.
Et là, j'étais plus journaliste.
Vous étiez plus journaliste.
Ouais.
Comment on fait la part des choses quand on est dans des situations pareilles, où vous êtes là pour filmer, pour interviewer, et non pas pour aider, sauver, et qu'autour de vous, on vous dit, aidez-nous, sauvez-nous.
Je veux dire, on se blinde. On est blindé.
Mais c'est quoi se blinder?
Ben c'est contrôler votre affect, faire en sorte que votre affect il sort un peu mais pas trop.
Sinon, vous pouvez pas faire votre métier.
Sinon on est envahi par les images passées, on est envahi par ce qui se passe dans le présent. Non, on peut pas faire. Donc il faut, vous savez, c'est comme les médecins qui opèrent un enfant cancéreux. S'ils pensent que ça pourrait être le leur, s'ils pensent à tout, ils peuvent plus l'opérer. C'est pareil. Des infirmières qui se dévouent auprès de gamins qui sont en dialyse, qui leur rappellent leurs propres enfants, si elles pensent à ça, elles peuvent plus faire les gestes nécessaires, qui font que les enfants se la piquent et que ça fait un peu mal, ou que le gosse est en train, il n'en peut plus. Il ne faut pas qu'elles pensent à qu'il n'en peut plus. Il faut qu'ils pensent à « je dois enfoncer ma piqûre dans cette veine ».
Et vous, c'est « je dois filmer ».
Je dois rapporter, je dois entendre leurs témoignages.
Et alors là, encore une fois, je parlais des questions éthiques qui sont dans votre métier. Oui. Quel moment il faut filmer, à quel moment il ne faut pas filmer, et à quel moment il faut diffuser l'image, à quel moment il ne faut pas diffuser l'image.
Alors moi j'ai une position, il faut tout filmer et après on fait le tri, une fois qu'on a le cerveau un peu plus reposé. Parce que ce qu'on n'a pas filmé, on ne pourra jamais le refilmer. Par contre, on peut faire le tri sur une table de montage. Et on a bien vu au fil des années, le tri qui s'opère est de plus en plus pudique. C'est-à-dire que en 2019, quand je suis allée, ou 2018, je sais plus, quand je suis allée au Yémen, ce que j'ai vu, les enfants dans des états...
Pour filmer la famine, hein, votre sujet, la famine, c'était la famine au Yémen, dont on parle
la
jamais.
La guerre et la famine au Yémen. Mmh. Et pour filmer ça, bien, on m'a fait changer des plans à Paris. Parce qu'ils étaient trop gros. Enfin, c'était des gros plans. J'avais pensé qu'il fallait de temps en temps montrer quand même ce que c'était que cette famine. Il a montré par un gros plan. De visage, émacié, avec les yeux globuleux. Et là, on m'a dit, non, mais un plan plus large.
On est plus pudique que dans les années 60. Je me souviens, la guerre au Biafra, tout ce qu'on a montré, les horreurs, les images horribles
de l'époque.
Alors,
c'est le paradoxe de notre monde. On s'enveloppe de pudeur, alors que sur les réseaux sociaux et sur les jeux vidéo passent des choses apocalyptiques. Mais on est pudique quant à la réalité. Pour dans les grandes chaînes, etc. On est pudique. Et puis alors à côté, la violence se déchaîne sur le net. Là, je ne comprends pas. Mais bon, c'est vrai que ça ferait peut-être les gens zapperaient et ne regarderaient plus le journal.
Visage, l'expression de l'être.
Patricia Lémonière, comment on ressent les choses quand on est grand reporter comme vous, immergé dans la guerre, la violence, comme vous l'avez été pendant plus de 30 ans? Et puis, vous êtes là au téléphone avec votre rédac chef et vous devez négocier. Non, mais attends, là, tu me laisses 4 minutes. Hein. Et le rédac chef vous dit non, là, tu auras 3 minutes, pas plus. Quoi. Parce que ça, c'est un aspect qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas en général quand on est devant son poste de télé à 20h. C'est vous êtes là à fond dans votre mission sur le terrain, vous voulez témoigner. Et vous devez encore négocier avec votre rédac chef qui vous compte la minute.
Eh oui, parce que le journal est un ensemble de 30 minutes où il doit y avoir des équilibres. Et quand on est sur le terrain, on a envie de bouleverser ces équilibres. Parce qu'on pense que ce qu'on a est essentiel. Malheureusement, par rapport à l'équilibre global, ce n'est pas essentiel. Et donc, il faut admettre que ce que vous avez vu, aussi violent et bouleversant soit-il, ce n'est pas essentiel par rapport au produit, parce que le journal est un produit qui doit donner une vision de la France, du monde et de tout, et que tout doit être dedans.
Non, mais
et
comment si vous le viviez,
ah ben, ça on est en colère, mais c'est juste de la colère, mais après, on le sait. Donc déjà soi-même, on ne quémande que 4 minutes, alors qu'on aurait plutôt envie d'en quémander 10, voyez. Donc déjà, on se restreint. Donc on le comprend. Mais
c'est pas frustrant, ça.
Faut pas être frustré. Faut dire
sinon
que
c'est, on peut pas faire ce métier.
C'est le jeu, c'est comme ça, et c'est déjà bien 3-4 minutes. Et surtout, ce que j'ai envie de dire, en plus de tout, vous allez peut-être me poser cette question, mais quelle chance on a d'être en France.
Ouais,
quelle chance.
Ça vous insistez.
Moi, ce
dans votre
métier
livre.
Me fait dire, mais on ne se rend pas compte, on est dans un pays merveilleux, même si on a des ratages, même si les transports, ça marche pas, même si on est serré, même si nos politiques ne nous écoutent pas, même s'ils ne nous écoutent pas, ils ne nous tuent pas, ils ne nous enferment pas, ils ne nous privent pas de notre liberté de parole.
Ouais. Vous l'avez dit très vite à votre fils, quand tu seras plus grande, nous partirons ensemble voyager, ce que vous faites encore. Tu verras, tu comprendras ta chance, celle de vivre dans un pays en paix où règne l'abondance. Ouais. Comment vous réagissez, Patricia Lémonière, quand vous revenez d'un reportage pareil où vous avez vu la misère, la dureté, la guerre, la violence, puis vous arrivez en France et vous entendez les Français qui râlent pour le RER qui est en retard, pour la sécurité sociale qui en donne pas assez?
Ça me met aussi un peu en colère. Comme les minutes à l'antenne, j'ai envie de dire. Mais en même temps, je me dis, ils ne se rendent pas compte. Et peut-être qu'il faudrait faire plus d'international. Parce que je crois que l'international, sur les chaînes de télévision, c'est l'ouverture au monde. Et l'ouverture au monde, c'est la démocratie. De montrer la différence, accepter la différence, montrer la réalité des pays autoritaires, ne serait-ce que ça. Montrer la réalité des pays en guerre, montrer que dans beaucoup de pays, on paye, l'école n'est pas gratuite, la santé n'est pas gratuite, les transports sont 4 fois plus chers que chez nous, quand il y en a parfois même pas.
Et qu'on ne vit pas en dictature, faut pas exagérer quand même.
Et qu'on vit dans un pays où on est totalement libre. Enfin, on a bien sûr des restrictions sur nos manifestations. Ouais. On peut faire mieux. Mais en même temps, on est très, très, très libre.
Et le retour, Patricia Lémonière, quand on est plongé pendant, généralement vos missions, c'est 3 semaines?
Au début, c'était 4-5 semaines, et maintenant c'est, après, c'était 3 semaines, et maintenant, c'est plus 10 jours.
Ouais, ça, encore une fois, pour les questions de coûts, voilà. on limite.
On fait tourner les gens, ouais. Et puis voilà.
Le retour.
Oui.
Comment ça se passe, le retour d'un grand reporter de guerre, quand il revient en France?
Alors, le retour, il y a plusieurs choses. Il y a le retour, on va dire, celui qui se passe bien, on va dire. Alors, la veille du départ, quand on va prendre l'avion le lendemain matin, on se prend une bonne fête, on fait une bonne fête avec l'équipe le soir, on mange, on rigole, on décompresse. Dans l'avion, même si on est dans la classe qui est économique, on se prend un petit verre de vin, bien arrosé, on se détend. Et là, après, on arrive chez soi, clac, on ferme les écoutilles, on n'en parle pas et on parle d'autre chose.
On n'en parle pas. Pourquoi? Parce que les gens ne peuvent pas comprendre ce que vous avez vécu.
Non. Et puis en plus, est-ce qu'il faut le raconter?
Pourtant, c'est votre métier de témoigner.
Oui, mais je témoigne dans mes reportages qui sont des reportages triés. Enfin, je ne témoigne pas de ce que j'ai vécu personnellement. Je témoigne de la réalité. Je témoigne pas de moi. Si je parle à mes proches, je parle de moi. Mon reportage, c'est témoigner de la réalité qui n'est pas moi. Donc ça, c'est le reportage qui se passe bien. On va au cinéma, on s'occupe. Moi, quand je rentrais, je prenais 10 jours de récupération. Et je m'occupais que de ma fille. Je sortais pas. C'était elle.
Coupure totale. Pas de vie sociale.
Voilà. Très peu, rien. Ou alors, il venait à la maison. Mais autrement, fini. Je m'occupais que d'elle. Il y a ceux où ça se passe moins bien. Je me souviens une fois en rentrant, je sais plus si c'était plomb durci ou c'était de Gaza. Je sais pas pourquoi. C'était plomb durci. C'était 2 minutes. On avait pu rentrer dans Gaza par l'Égypte. À l'époque, les Égyptiens avaient ouvert un tout petit peu à 2 reprises l'ouverture aux journalistes. Ils en avaient laissé passer 10, ils avaient refermé derrière. Bref. Donc, on avait vécu dans des conditions vraiment les bombardements, la bouffe, pas, vraiment pas top. Et quand je suis rentrée, je sais pas pourquoi, il a fallu que j'aille faire des courses. Et je suis allée dans un grand magasin parisien. Et là, d'un seul coup, j'ai pas pu. Je suis ressortie aussi sec. J'en pouvais plus.
C'était trop.
Trop de cette abondance. Il y avait tout. Il y avait des lumières, il y avait des flashs. C'était trop. Je suis ressortie. J'ai pas fait mes courses. Je suis rentrée et je me suis occupée de ma fille.
Pour terminer, Patricia Lémonière, qu'est-ce que ce métier vous aura enseigné d'essentiel, qui a transformé la femme que vous êtes?
D'abord que je suis une toute petite personne. Ça m'a enseigné l'humilité. Je suis une toute petite personne par rapport à tous les gens que j'ai rencontrés sur le terrain et qui m'ont appris des tas de choses et qui sont incroyables. Même les plus abominables, même les dictateurs, même Ahmadinejad, quand j'ai pu discuter un peu avec lui presque en tête à tête après une interview faite avec Laurence Ferrari. Très bonne interview qui avait été critiquée parce qu'elle portait un voile alors que c'était ridicule, on doit porter un voile à l'antenne. Bref, je referme. Même les gens les plus abominables vous apportent quelque chose. Donc, ça m'a appris l'humilité, parce qu'il y a tous ces héros anonymes dont je vous ai parlé. Et la deuxième chose que ça m'a appris, c'est que j'avais pas trop le droit de me plaindre. Voilà. Donc, mes plaintes, je les garde pour moi et je n'en fais pas profiter mon entourage parce qu'elles sont vraiment ridicules.
Bien, merci beaucoup, Patricia Lémonière, parce que dans ce livre, vous nous partagez beaucoup de choses, pas de plaintes, et effectivement une vie incroyable que vous avez menée comme grand reporter pendant plus de 30 ans. Je recommande ce livre, Au cœur du chaos, un livre très particulier, hein, publié chez Artaud, où vous partagez à la fois vraiment votre métier de grand reporter, mais aussi cette relation particulière que vous avez avec votre fille pendant plus de 30 ans. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Cette émission Visage vous a été proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Nathan Faure.